ces jeunes filles prévoyantes auraient dû faire preuve de plus de générosité et de compassion en partageant leur huile avec leurs compagnes insouciantes. De cette façon, tout aurait pu entrer dans la salle des noces, peut-être avec un peu moins de luminosité. Et il aurait pu au moins s'excuser pour son retard, cet époux, et de ne pas réagir de manière abrupte, en claquant la porte devant ces pauvres jeunes filles qui ont dû en pleine nuit aller marchander et acheter l'huile pour leur lampe qui risquait de s'éteindre. Chers frères et sœurs, la première réaction que nous avons en écoutant cette parabole de Jésus est probablement celle-ci. Pourtant, notre réaction tout à fait compréhensible ne touche pas du tout le fond de la narration. Jésus ne pousse pas directement ses auditeurs à partager. Il ne fait pas la morale aux maris en retard, ni encore moins aux jeunes filles écrasées par le sommeil. Vers la fin de son évangile, avant les récits de la Passion et de la Résurrection, l'évangéliste Matthieu a mis ensemble une série de paroles de Jésus qui évoque la venue imminente du Fils de l'homme. Cette venue manifesterait pleinement le royaume des cieux que Jésus avait annoncé durant toute sa mission. Et Jésus incitait ses auditeurs à veiller pour ne pas être surpris par le retour du Seigneur. Nous entendons aujourd'hui donc la parole des 10 jeunes filles, puis celle des talents confiés aux serviteurs pour le temps de l'absence du maître, ce sera la semaine prochaine, et l'ensemble se termine par la fameuse scène du jugement dernier, c'est l'évangile de la solennité du Christ roi de l'univers. Aujourd'hui donc, nous avons entendu la parabole des 10 jeunes filles qui termine par cette parole dure aux filles insouciantes. Je vous le dis, je ne vous connais pas, et avec l'avertissement, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans ce passage de l'évangile de saint Matthieu, nous nous trouvons donc à la fin de la mission de Jésus. Jésus a inauguré par l'annonce de la bonne nouvelle du royaume des cieux, un temps de bonheur pour les pauvres de cœur, pour ceux qui pleurent, qui ont besoin de consolation, pour les miséricordieux, pour les artisans de paix. Mais l'entrée dans le royaume des cieux, on pourrait dire avec l'image de cette parabole, dans la salle des noces, est liée à une condition. Il faut être prêt à entrer dans la fête. L'époux ne reconnaît que les vigilants, c'est-à-dire ceux et celles, ou celles dans la parabole, qui vivent selon les béatitudes que Jésus avait proclamées et qui se sont donc préparés à obtenir le bonheur du royaume, la paix, sa consolation, sa miséricorde. Et il ne suffit pas de prononcer de grandes paroles et de se vanter d'une vie réussite. À un autre moment, Jésus disait, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » L'accès au royaume des cieux, l'entrée aux noces, requiert un certain sens pratique, raisonnable, qui est attentif au bon moment, un sage souci pour le bien de soi-même et des autres, un jugement droit inspiré par la charité, une conformité de notre agir avec la volonté de Dieu. Jésus utilise dans le chapitre 7 de l'évangile de saint Matthieu l'image de la construction d'une maison. Il faut être sage et prévoyant comme cet homme qui construit sa maison sur le roc. Dans la parabole des 10 jeunes filles, donc, il y a deux attitudes qui sont opposées. L'insouciance, la prévoyance. Afin de ne pas suggérer qu'il s'agit simplement de notre système de prévoyance sociale, je préfère y ajouter la vigilance, l'attention sage et réveillée aux exigences du moment. Jésus a annoncé le royaume des cieux comme un festin de noces auquel Dieu invite aussi tous ceux et celles dans un autre texte que les serviteurs auront trouvé aux croisées des chemins. Les noces, c'est l'image de l'alliance, du lien nuptial entre Dieu et son peuple, son lien avec toute l'humanité. Et quand Jésus utilise cette image des noces, on peut aussi comprendre que c'est lui-même, l'époux, qui est attendu, le Fils de l'homme, le bien-aimé du Père. L'épouse, la parabole n'en parle pas directement, certainement elle se prépare aux noces. Elle est l'Église. Et l'alliance avec l'époux sera scellée par la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Ce sera une fête de triomphe, de la vie sur la mort, de la paix sur la guerre, de la justice sur les violences de ce monde. Et comme membres de l'Église, nous sommes, comme le célébrant le dit, avant de distribuer le corps et le sang du Christ, nous sommes heureux d'être invités au repas des noces de l'agneau, ici et maintenant. Mais qui sont donc ces 10 jeunes filles? D'après leur nombre symbolique, on doit dire qu'elles représentent, je dirais, l'ensemble des fidèles, nous, de tout âge, de toute condition, qui se prêtent à accompagner le Seigneur lors de son entrée dans la salle des noces. Et le Seigneur attend de nous une attitude sage et violente et vigilante, car sa venue est imminente, mais imprévisible. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, dit-il en conclusion de la parabole. Être chrétien, c'est donc vivre dans l'attente de la venue du Seigneur, de veiller, non de manière passive, mais active et aimante, pour devenir comme les filles sages et prévoyantes, prêts à rencontrer l'époux, à rencontrer le Christ, qui est lui-même la sagesse personnelle de Dieu, qui vient, comme dit la première lecture, qui vient à notre rencontre. Car la première lecture d'aujourd'hui donc, nous présente en effet la sagesse de divine, et comme le texte dit, qui se laisse trouver par ceux qui la cherchent. L'époux, c'est le Christ. Il est en personne la sagesse de Dieu qui vient au-devant de ceux qui la cherchent. Même s'il se fait attendre, il n'est pas loin, car la sagesse est la présence permanente du Seigneur. Et on peut la trouver, comme dit le texte, assise à notre porte. La présence de la sagesse procure paix, bonheur et discernement. Et même si nous nous endormons, ce qui arrive très souvent, quand nous l'oublions, quand nous nous perdons dans les méandres de la vie, cette sagesse divine, c'est elle qui nous cherche, comme dit le texte, au détour des sentiers. Elle nous apparaît, j'étais très impressionné par cette image, elle nous apparaît avec un visage souriant. Cela m'a fait penser à un conseil spirituel de Maître Eckhart qui dit, et je le cite, « Dieu est le Dieu du présent. Il te trouve, il te prend, il t'accueille. Non pas ce que tu as été, mais ce que tu es maintenant. » Et il est donc toujours proche, et Eckhart continue. « En aucune façon, dit-il, l'homme ne doit se croire loin de Dieu, ni à cause d'une faute, d'une faiblesse, ni à cause de quoi que ce soit. De même, si la grandeur de tes fautes t'avait chassé si loin que tu ne puisses te sentir proche de Dieu, tu dois cependant considérer que Dieu est proche de toi, que l'homme chemine loin ou près, Dieu n'est jamais loin. Il se tient, comme la sagesse, il se tient toujours à proximité, et s'il ne peut rester à l'intérieur, il ne va jamais plus loin que sur le pas de la porte. La sagesse divine, le Christ, est donc prête à nous rencontrer. Il suffira de garder nos lampes allumées, de nous approvisionner avec l'huile de notre foi, de notre confiance ardente, qui fait refléter, je pense, sur notre visage, par le feu de l'esprit, le sourire de sa bonté et sa lumière qui nous accueille. Frères et sœurs, ce n'est pas un projet pour le dernier jour de notre vie terrestre, mais une invitation pour chaque jour de notre temps. Nous laisser modeler à l'image de cette sagesse souriante qui vient à notre rencontre et qui nous trouve comme les filles prévoyantes, prêtes à entrer. Elle nous interpelle. Dans chaque visage d'autrui, elle nous demande de l'accueillir, surtout avec le sourire d'une bonté humaine sans faille. Amen.